Livre de Daniel.
Nous avons vu le chapitre premier, nous voici donc au chapitre 2. Chapitre 2, nous allons lire de 1 à 11. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Voulez-vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Nous allons d'abord voir ce commencement de ce grand récit du songe de Nebuchadnezzar. Évidemment, ces magiciens, ces astrologues, se trouve là, placé dans une position impossible. Le roi leur demande non pas seulement d'expliquer un songe dont il leur donnerait la teneur, mais de lui rappeler cette teneur parce qu'il l'a complètement oubliée. Ceci se passait la seconde année, du règne de Nebuchadnezzar. Ce qui fait 603, 602 avant notre ère. Alors, ici, il y a un petit quelque chose au point de vue chronologique qui est assez difficile. Il faut admettre que Daniel fut pris, emporté en captivité, l'an 606, n'est-ce pas, puisque il restera 3 ans avant de comparaître devant le roi. Nebuchadnezzar, lui, commence à régner l'an 605 avant notre ère, et il eut le songe l'an 603. Ce songe prend ici la valeur et la forme d'une révélation. Verrons pourquoi Dieu donne une révélation à ce roi païen. C'est une révélation de Dieu. Les Chaldéens attachaient au songe une importance première et ils y voyaient toujours une révélation de l'avenir. Révélation de leur Dieu, bien entendu. L'esprit du roi a d'ailleurs été très fortement impressionné par le songe qu'il a eu, au point que il en perd le sommeil. Cela nous est dit. Je relis simplement le verset 31 du chapitre 2. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, que le roi est tellement bouleversé au point d'en perdre le sommeil, c'est que il a vu une statue terrible, terrible, un aspect effrayant. Alors il fait appel ceux qui sont appelés ici les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, c'est-à-dire les quatre classes de ces sages qui étaient supposés pouvoir donner l'explication du songe. Les chartumim. Les chartumim. Et puis, nous avons les ashfat. Les ashfatim. Ah, c'est compliqué. Les ashfatim. Et puis, nous avons ensuite les mekashefim. Les mekashefim. Les mekashefim im et les kasdim. Voilà, n'est-ce pas, ce qui composait à Babylone la caste des sages. La caste des sages. Chastumim vient d'une étymologie chaldéenne qui signifie stylé. Stylé. Si bien que ces gens-là sont les savants, ceux qui écrivent. Ah, mettons les écrivains, si vous voulez. Les écrivains qui devaient être à cette époque uniquement des savants. Et les ashfatim étaient les magiciens. Magiciens. Les mekashefim étaient les enchanteurs. Les enchanteurs et les kasdim étaient tout simplement les chaldéens. Alors, les chaldéens sont des prêtres. Ceux qu'on appelait des chaldéens sont des prêtres chargés des services sacerdotaux. Et tous les moyens de divination et de connaissance devaient être mis à la disposition du roi. Et vous voyez quelle exigence présente le roi. Nebuchadnezzar a-t-il vraiment oublié le songe? Certains se sont posé la question. Ou eussent-ils de finesse, de malice, si vous voulez, en disant à ces sages que le songe lui a échappé, et pour voir justement s'ils sont capables de lui rappeler le songe, et comme il le dit, si vous êtes capable de me rappeler le songe, je saurai comme ça que vous êtes capable de l'expliquer. Mais sans ça, vous pourriez me donner une explication, hein, à votre goût, n'est-ce pas? Vous êtes habile, vous pourriez m'inventer toutes sortes de choses qui ne seraient pas la véritable explication du songe. On a supposé cela. Pour en somme éprouver ces sages avant d'écouter leur interprétation. Le verset 8 nous a dit, le roi reprit la parole et me dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Donc, nous ne pouvons pas retenir cet avis de certains commentateurs ou de ceux qui ont isolément se sont emparés. Vous savez, on a beaucoup parlé sur ce chapitre 2, sur le songe de Nebuchadnezzar. Et puis alors, vous avez des formations chrétiennes comme les adventistes qui en ont fait une utilisation sensationnelle. Ils se réfèrent toujours à ce passage-là et à ce songe. Je sais qu'il est important, mais enfin. Alors, beaucoup ont dit, n'est-ce pas, ce que je viens de vous rappeler, mais ce n'est pas exact. Le verset 8 déclare l'oubli. Et il est clair qu'après avoir donné au roi ce songe effroyable, Dieu en avait effacé le souvenir de sa mémoire afin de préparer l'audience qui va être accordée par le roi à Daniel. Hein, voyez, n'est-ce pas? Il ne faut pas se hâter d'imaginer des choses pour expliquer. Ben, il faut s'appuyer sur l'écriture et sur tout le contexte. Donc, Dieu en avait effacé le souvenir afin que Daniel puisse comparaître et de manifester le caractère divin du songe et de son explication. Dieu ne voulait pas que ce soit les sages qui interprètent devant le roi le songe, il voulait que ce soit Daniel. Daniel était un prophète et il va parler par la bouche du prophète. Le roi est d'autant plus farouchement poussé à ce qu'on lui dise le contenu du songe qu'il l'a précisément oublié, mais qu'il garde le souvenir d'une impression terrible qu'il a ressentie lorsque la vision s'est présentée à lui pendant son sommeil. Certains chrétiens sont quelquefois étonnés que Dieu ait parlé à ce roi Nebuchadnezzar, auquel il a un rôle, a attribué un grand rôle, qu'il lui ait parlé par un songe. Alors que c'est un roi païen, n'est-ce pas? Mais ça, n'est-ce pas, si on est étonné, c'est parce que véritablement on ne réfléchit pas et on ne connaît pas l'ensemble des Écritures. Dieu a toujours parlé par le moyen, la voix qui correspond à ce que à celle que les gens auxquels ils s'adressent ont l'habitude d'utiliser, enfin, ou dans ce qui leur est familier. S'agit-il, par exemple, des mages d'Orient, n'est-ce pas, au moment où naît le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, les mages qui observaient le ciel vont voir une étoile qui va les guider. S'il s'agit, par exemple, des pêcheurs de Galilée, eh bien, le Seigneur Jésus va leur parler par une pêche miraculeuse. S'il s'agit de Nicodème, qui est un docteur de la loi, ben, il va lui parler selon la loi. Il va lui parler par la loi, n'est-ce pas? S'il s'agit de cette femme samaritaine qui vient chercher de l'eau, puis ben, le Seigneur va lui parler de l'eau. Pas, à lui parler par le moyen de l'eau vive. S'agit-il des gens du pays de Sichem qui vont venir appelés par la Samaritaine et vont venir et vont eux-mêmes, n'est-ce pas, rencontrer Jésus? Eh bien, ce sont des cultivateurs. Jésus va parler de moisson qui blanchit. S'il s'agit de gens qui sont familiers de la vigne, la culture de la vigne, il va leur parler par le cep, le sarment, la vigne, n'est-ce pas? Quand le Seigneur a prononcé ce chapitre 15, cette parabole du chapitre 15 de Jean, eh bien, ils étaient en train, déjà de nuit, de descendre au milieu des ceps de vigne, n'est-ce pas? Vous voyez, le Seigneur Jésus ne va pas chercher loin, le Seigneur Jésus est Dieu lui-même, ne va pas chercher loin ses moyens de contact, tous ces moyens, ces voix, n'est-ce pas, pour faire entendre ce qu'il veut dire. Il se sert de ce qui est familier, de ce qui tombe sous la vue, n'est-ce pas, voyez. Si bien que ces gens-là aimaient les songes, ils aimaient ça, ils avaient l'habitude de consulter les sages pour savoir le contenu des songes, n'est-ce pas, eh bien, le Seigneur va leur parler par un songe, tout simplement. Il n'y a rien, donc, là, n'est-ce pas, d'extraordinaire. Au contraire. Donc, après trois reprises, je veux dire, les sages se déclarent incapables de rappeler au roi le contenu du songe, et ils demandent au roi de le leur communiquer. Nous avons cette formule que nous allons retrouver même dans la bouche de Daniel et dans la bouche même de Néhémie, cette salutation « Ô roi, vis éternellement ». Évidemment, c'est un souhait tout à fait factice, n'est-ce pas, prononcé par les païens entre eux. C'était un mode de salutation, une expression devenue traditionnelle pour s'adresser au roi. Évidemment, n'est-ce pas, ça ne correspondait absolument à rien, mais enfin, dans la bouche de Daniel, il n'y a pas rien là de faux, n'est-ce pas, ou dans la bouche de Néhémie, parce que ce que Dieu veut, c'est le salut, et le salut, ça consiste à vivre éternellement. Et moi, je peux vous dire, vivez éternellement. Mais, vous savez comment? Il faut faire pour vivre éternellement. Hein? Alors, nous allons continuer notre lecture au verset 12. Du verset 12 au verset 18, je n'en lis pas trop à la fois, parce que ça s'oublie vite. Alors, faisons attention à ce que nous lisons. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel et ses compagnons sont considérés, eux aussi, comme des sages, puisque, n'est-ce pas, précisément, Dieu leur a accordé la science, l'intelligence, dans les lettres de la sagesse, alors ils ont pris place parmi les chartumim, n'est-ce pas, et les écrivains, hein, et ils sont considérés comme des sages. Par conséquent, ils sont eux aussi enveloppés dans la sentence de mise à mort. Mais Daniel intervient et il obtient un délai du roi. Daniel, pour cela, s'adresse au chef des gardes d'une manière prudente et sensée. Ouh, ya, 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 ya. comme c'est bon à retenir ça, n'est-ce pas? Et comme ce serait bien que, dans toutes les difficultés à l'égard même des personnes du monde que nous avons à toucher, nous puissions nous aussi nous adresser à eux d'une manière prudente et sensée. Mais ça, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Et un chrétien doit pouvoir avoir ses qualités venant de sa foi. Le Saint-Esprit ne donne-t-il pas la sagesse? Toutefois, la prudence n'exclut pas le courage et la fermeté. La sagesse de Daniel, nous l'avons vu, venait de Dieu. Animé donc de foi, Daniel va vers le roi et lui demande un délai qu'il obtient. Pourquoi faire ce délai? Eh bien, tout simplement pour prier avec ses amis. A priori, il n'a aucune solution, voyez-vous. Voilà, Daniel n'a pas de solution, ni dans sa tête, ni dans son cœur, il n'a pas de solution. Il ne sait pas comment on peut sortir de cette situation. Alors, ne soyez pas, vous, n'est-ce pas, affolés quand vous voyez une situation scabreuse, menaçante, et que vous ne voyez rien pour en sortir. Pourquoi vous êtes affolés? Ça arrive souvent, ça, être affolé, parce que vous ne voyez pas l'issue. Vous ne voyez pas le moyen d'en sortir. Ben Daniel non plus, là, ne voyait pas le moyen. Il était menacé de mort. Hein. Il vient de demander des explications à Arjok, qui a répondu courtoisement. Et ainsi renseigné, il va vers le roi pour demander un délai, parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne sait pas. Mais il le saura. Il a la foi. Il va donc prier avec ses amis. Il va demander à Dieu une solution. Daniel comprend qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que lui et ses amis périssent. Et ainsi, n'est-ce pas, il peut vraiment tranquillement demander à Dieu de venir à leur secours et de leur montrer une porte de sortie. Mais, je répète, il n'en voit pas lui-même. Humainement, il n'a rien. Et jusque-là, il n'a même aucune inspiration de Dieu, n'est-ce pas? Simplement la prière, mais c'est l'arme de tout le monde, ça. C'est l'arme du chrétien. Alors, faut pas s'affoler. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Si on a la foi, on doit être tranquille. Mais attention, attention. Quand je dis qu'un chrétien doit avoir la foi et a la foi, et qu'il peut avec cela prier le Seigneur pour sortir de toute issue, il faut qu'il vive selon la foi. Hein? Ah ça, si nous traînons derrière nous, n'est-ce pas, évidemment, une existence qui n'honore pas le Seigneur, au contraire, alors ça, mes amis, ça ne s'appelle pas avoir la foi, parce que la foi place toujours le chrétien dans une bonne conduite. C'est ce que dit l'Écriture. Alors, il faut, vous voyez comme il est important que nous soyons toujours en voie de sanctification, parce que si nous avons besoin d'un secours, alors là, nous pouvons le demander. Notre foi sera vraiment capable de prier, et la prière sera entendue. Daniel va donc se confier à Dieu en se servant d'une prière ardente, une prière confiante. Et dans les... Bon, alors, nous allons lire maintenant les versets 19 à 23. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue, de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. La vision de Daniel n'est pas un autre songe. Elle vient en réponse à la prière. Quelle avait été la prière de Daniel et de ses compagnons? Eh bien, c'était d'implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr. Qu'on ne les fît pas périr. Voilà. Ils avaient demandé. Mais ils avaient laissé la liberté, n'est-ce pas, à Dieu d'agir comme il l'entendrait. Et Dieu répond à cette prière en donnant à Daniel une vision qui n'est pas un autre songe, mais une vision utilisant le songe déjà donné à Nebuchadnezzar. Et c'est en état d'éveil qu'il a cette vision où la statue du songe du roi se présente et au cours de laquelle l'explication est donnée à son esprit. C'est différent de Nebuchadnezzar, voyez-vous. Il y a donc dans cette vision une révélation. Et quand Joël a parlé de vision pour les temps dans lesquels nous sommes maintenant, n'est-ce pas, au livre des Actes, hein, lorsque Pierre, au moment des langues de feu, c'est pas le jour de la Pentecôte, cite Joël, il dit « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Ce qui veut dire, vos fils, vos jeunes gens, vos vieillards auront de la prophétie, des visions et des songes. Mais des visions, et il ne faut pas se tromper sur ce que cela désigne. Il s'agit d'une vision, de visions qui peuvent être, vous savez, il y en a de toutes sortes, des visions peuvent être très différentes de ce qu'on imagine ordinairement, mais dans la vision, il y a une révélation. La vision sert à révéler quelque chose. Alors donc, Daniel n'a pas un songe comme le roi Nebuchadnezzar, il a une vision dans laquelle, par laquelle il reçoit révélation du contenu du songe et l'explication, bien sûr, du songe. Maintenant, Daniel sait que le songe a pour objet de montrer comment les temps et les circonstances vont changer. Aussitôt après la vision, Daniel rend grâce à Dieu avec objectivité. La première chose qu'il fait, c'est de rendre grâce à Dieu. Vous le faites aussi, certainement, je n'en doute pas, n'est-ce pas, quand vous avez reçu un exaucement. Vous ne l'oubliez jamais. Bon. Alors, nous lisons au verset 24. Du verset 24 au verset 30, vous m'avez pas répondu. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. L'introduction de Daniel avoir tout de suite pour effet d'apaiser le roi. Le roi va être apaisé. Et Daniel va tenir à diriger vers Dieu la pensée du roi Nebuchadnezzar afin que celui-ci ne s'imagine pas qu'il a affaire à un sage plus grand que tous ceux qu'il possède dans son royaume, un Dieu qui est la source de toute connaissance surnaturelle. Dieu fait ce qui est impossible à l'homme, et Daniel est là un instrument vivant dont Dieu se sert. Du songe de Nebuchadnezzar, il en est comme de l'Écriture, comme de l'Évangile. L'homme naturel ne le pénètre pas, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens. Dieu, par contre, en fait la révélation, et non à cause d'une sagesse supérieure à l'homme, mais par pure miséricorde. Je ne veux pas m'arrêter sur ce que nous avons lu jusqu'au verset 30, et nous allons maintenant lire le songe lui-même, le rappel du songe que fait Daniel, au verset 31, jusqu'au verset 36. Nous verrons l'explication ensuite. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Une grande statue, immense, par conséquent de dimension colossale, d'une splendeur extraordinaire, splendeur par l'éclat des métaux, à part l'argile des pieds, n'est-ce pas, tout le reste de la statue est en divers métaux, et ces métaux ont un très vif éclat. D'un aspect terrible, parce que elle est étrange, parce qu'elle est effrayante, et qu'elle est même menaçante. Ce n'est pas une statue sur laquelle le regard puisse se reposer et se plaire, elle a un aspect effrayant. Elle est composée de différents métaux, or, argent, airain et fer. Mais elle est placée sur des pieds qui sont fragiles, c'est-à-dire des pieds qui sont en partie de fer et en partie d'argile. Et remarquez ceci, c'est que les métaux sont de moins en moins précieux, or, argent, airain, fer, n'est-ce pas? Vous voyez, ils sont dans un ordre dégressif quant à leur valeur, mais dans un ordre progressif quant à leur dureté. Remarquons cela. De plus en plus dur. Le roi ébahi avait contemplé cette statue quand une pierre en avait frappé les pieds et les métaux s'étaient volatilisés. Mais remarquez ceci, n'est-ce pas, il faut bien faire attention au texte, quand la pierre frappe les pieds de la statue, les pieds de fer et d'argile, et qu'elle les met en pièces, alors, remarquez, le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble. Vous remarquez que la statue est frappée au pied et les métaux sont cités en sens inverse. Hein? Alors, le fer et l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf, c'est-à-dire ça doit faire une espèce de si vous voulez, de poussière. C'est une grande poussière, un grand nuage de poussière. Et le vent les emporta, voyez, une poussière, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors nous allons lire de 37 à 45 l'explication du songe. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après quoi, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Vous voyez, la force, n'est-ce pas, était dans le bas, là, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps... Attendez, oui, 37 à 45... Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Le but du songe, Dieu entend révéler au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera après lui, nous avait dit le verset 29. Et même dans la suite des temps, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Non seulement le songe a pour but de révéler à Nebuchadnezzar ce qui va arriver après lui, après son départ, après sa mort, mais dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Alors cela nous est précieux, n'est-ce pas, pour bien suivre l'interprétation du songe. Nous savons que ça doit se projeter jusqu'à la fin des temps. Alors ça, c'est... Attention, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas, parce que sans ça, on risque de commettre de graves erreurs. La statue tout entière représente donc, premièrement, le temps présent. Tu es la tête d'or, le temps présent. Deuxièmement, les formes que la puissance politique du monde prendront après Nebuchadnezzar et jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au royaume qui ne passera point. Jusqu'à l'avenue, par conséquent, du royaume de Christ. Du règne de Christ. Tu es le roi des rois, tu es la tête d'or. Dit Daniel à Nebuchadnezzar, et ça, c'est pas pour le flatter, parce que dans d'autres circonstances, Daniel va dire son fait à Nebuchadnezzar. Et ça, Daniel ne craint rien, n'est-ce pas? Il est l'envoyé, il est le prophète, l'envoyé de Dieu. Par conséquent, n'est-ce pas? Il ne dit pas là des choses qui flattent, mais des choses tout à fait exactes qu'il a obtenues par révélation dans la vision. Nebuchadnezzar dominait sur un grand nombre de rois. Le livre d'Ézéchiel nous le dit au chapitre 26, et au verset 7. C'est ainsi, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je t'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Alors, voici, j'amène du septentrion contre Tyr, j'amène Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar est appelé par le prophète ici, le roi de Babylone et le roi des rois. Vous vous rendez compte? Le roi des rois. C'est pas le Négus. Négus, personne ne lui a donné ça, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'il se voit un lointain descendant de Salomon. Alors il s'est octroyé cette désignation de roi des rois, enfin ceux qui ont été avant lui. Mais ici, n'est-ce pas, c'est attribué par Dieu. Alors ça, on l'oublie généralement, n'est-ce pas, parce que, oh, nous, n'est-ce pas, ces rois païens, etc., nous sommes prévenus là. Mais Dieu est le Dieu de l'histoire. Et s'il sauve, certes, aujourd'hui, en ajoutant les âmes des hommes de foi à l'Église, il sauve par l'Église, dans l'Église, en joignant à l'Église ceux qui viennent, n'est-ce pas, par la foi à Jésus-Christ. Cependant, Dieu reste le roi de l'histoire et avant l'Église, il a agi très librement, n'est-ce pas, sur toute la terre. Alors, Dieu a donné à ce roi un empire immense. Nebuchadnezzar a eu un empire immense. L'histoire profane s'est souvent trompée, d'ailleurs, sur les limites de cet empire et a été obligée de réviser ses vues. Nebuchadnezzar était le successeur des rois d'Assyrie. Et l'empire d'Assyrie était immense déjà lui-même. Pourquoi Nebuchadnezzar est-il choisi comme tête de la statue, c'est-à-dire comme le commencement du temps des nations? Voilà le temps des nations, c'est la statue. Pourquoi est-il choisi là, comme le commencement, en somme, du temps des nations, du temps des nations qui va se prolonger, n'est-ce pas, par les autres royaumes que figure la statue? Eh bien, tout simplement, parce que Jérusalem cesse d'être un royaume indépendant, soumis à Dieu. J'ai déjà rappelé que les 10 tribus étaient dans la dispersion depuis un peu plus de 7 siècles avant notre ère. Ben là, nous étions en 604, 603, avant notre ère. Et Juda est lui-même en captivité. Puis vous savez que quand il reviendra, n'est-ce pas, le royaume ne sera jamais indépendant. Alors, Jérusalem donc est tombée en disgrâce, le pays, tout le peuple d'Israël est tombé lui-même en disgrâce, et le temps des nations va commencer là. Nebuchadnezzar et son empire sont le commencement, donc, du temps des nations. Dieu ouvre alors un temps, qui est ainsi appelé, temps des nations, parce que sa nation à lui ne remplit plus sa mission. Et Dieu va donc prendre des dispositions différentes. Sa nation, il ne va pas l'abandonner, certes, il la retrouvera, mais dans le lointain des temps. Dieu permet aux hommes, alors à partir de ce moment-là, Dieu va permettre, disons, aux hommes de constituer des nations puissantes. Et déjà, il accorde ici une grande autorité à Nebuchadnezzar. Relisons bien ce que dit Daniel, et ça c'est la parole d'un prophète, elle est consignée dans le livre saint, n'est-ce pas ? Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On est tout près, n'est-ce pas, de voir presque, n'est-ce pas, la délégation d'autorité et de pouvoir donné à Adam en Éden, n'est-ce pas, au moment de la création. Eh bien là, n'est-ce pas, voici que Nebuchadnezzar reçoit cela. Nous n'avons rien à changer ça, à ça, n'est-ce pas, nous n'avons qu'à enregistrer la chose. Ce roi est la tête d'or. Et puis, les versets 39 et 40 nous disent qu'il y aura un second, puis un troisième, et enfin un quatrième royaume après celui de Nebuchadnezzar. Et ces royaumes correspondent aux différents métaux de la statue. Nous avons encore le temps de les voir, n'êtes pas fatigués, non? Bon, ça va bien. Alors, le second royaume. Ah, là, n'est-ce pas, évidemment, il y a eu de nombreuses difficultés, il y a eu des avis divergents parmi tous ceux qui ont interprété, et tout ça parce que, souvent, on a examiné cela avec une insuffisance de foi, naturellement, et puis ensuite, il est arrivé aussi que l'on ait eu soi-même des idées préconçues que l'on ait voulu plaquer sur ce passage. Nous pouvons arriver à une certitude. Je ne dis pas que là c'est un à peu près, mais je dis que nous pouvons arriver à une certitude. Quand j'ai préparé mon étude sur le prophète Daniel, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, c'était pour l'école de Bièvre, là, le centre de formation de Bièvre, Je me suis servi, bien sûr, j'ai consulté des ouvrages, mais j'ai moi-même, n'est-ce pas, cherché personnellement, et je me suis arrêté à ce qui pouvait satisfaire mon cœur. Et alors, ensuite, j'ai reçu une petite messagère, c'était Hélène Labrune. Vous ne savez pas si vous la connaissez. Vous la connaissez, Hélène Labrune, n'est-ce pas? Hélène Labrune, justement, est venue, mais mon étude était faite, n'est-ce pas, à ce moment-là, je crois qu'elle est venue à Biet précisément. Alors, elle est venue, document en main, sachant que je parlais de Daniel, et elle m'a apporté ça. Étude prophétique, communiqué, j'ai par mademoiselle Hélène Labrune en avril 1973. Et alors là, sur cette étude prophétique, il y a précisément l'explication des quatre empires, et cela vient de l'enseignement que donnait au début de la Pentecôte Monsieur Pierre Nicole. Ah, je vous dis, je l'ignorais complètement, cet enseignement qu'il avait pu donner, et nous tombons entièrement d'accord. Par conséquent, je n'ai pas besoin d'en faire mention, puisque nous tombons d'accord, n'est-ce pas, ce qu'avait dit donc M. Pierre Nicole. Je vais vous le redire le même esprit. Alors, le second royaume, le premier royaume, nous venons de le voir, c'est Nebuchadnezzar. Le second royaume, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Les Mèdes et les Perses. Il y avait un pays qui s'appelait la Médie, M-E-D-I-E, n'est-ce pas? Les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. Alors, nous disons, n'est-ce pas, le premier royaume, c'est Nebuchadnezzar. Le tsar Babylone, n'est-ce pas, avec capitale Babylone. Le deuxième, alors, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Empire des Mèdes et des Perses. Les Perses sont alors alliés aux Mèdes, aux gens de Médie, dont d'ailleurs un homme connu et dont il sera parlé bientôt, Cyrus, était originaire. Cyrus était un Mède. Et c'est Cyrus, le Mède, qui va être le fondateur de cet empire des Mèdes et des Perses, parce que c'est lui qui va prendre Babylone. C'est lui qui va, comme le dit le livre d'Ésaïe, s'emparer de Babylone selon la volonté de Dieu et par l'assistance de Dieu. La mère de Cyrus était fille du prince des Mèdes et son père était prince des Perses. Et c'est ainsi que les Mèdes et les Perses, n'est-ce pas, vont fonder un seul empire qui va succéder à celui de Nebuchadnezzar. Le second empire est inférieur au premier. Il est d'argent. Quant au pouvoir des souverains, quant à la cohésion surtout, le métal a changé. C'est un peuple dont les différentes parties n'ont pas ensemble le même éclat. Il est d'argent. C'est encore quelque chose d'assez bon, mais il est d'argent. Le troisième royaume, c'est l'Empire des Grecs, qui va être fondé par Alexandre le Grand. Alors, Empire des Grecs. fondée par Alexandre le Grand, lequel Alexandre le Grand était roi des Macédoniens, roi de Macédonie, c'était pas très grand, et général des Grecs. Il était un général, général des Grecs, et roi des Macédoniens. Lui, c'est le troisième royaume, il fonde le troisième royaume par une sorte de guerre éclair pour le moment, n'est-ce pas, d'une campagne d'une rapidité extraordinaire, c'est le ventre et les cuisses des reins de la statue. Ventre et cuisses, n'est-ce pas, des reins, j'ai pas besoin de faire de dessin, vous voyez bien, n'est-ce pas, la succession. Il y avait donc la tête, n'est-ce pas, c'était Nebuchadnezzar, il y avait alors le buste et les bras, c'était les Mèdes et les Perses, il y a deux parties, n'est-ce pas, et puis alors le ventre et les cuisses jusqu'aux genoux, mettons, n'est-ce pas, eh bien là c'était le troisième royaume, celui que fonde Alexandre. Cet empire dominera sur toute la terre en ce sens qu'il réunit l'Orient, c'est-à-dire la Perse, à l'Occident, la Grèce. La Grèce était considérée comme étant à l'Occident, elle est toujours considérée comme telle, eh bien, l'Orient et l'Occident sont réunis, si bien, n'est-ce pas, que cet empire est vu comme dominant sur toute la terre. Et à la mort d'Alexandre, cet empire se partagera en quatre parties, mais deux seulement resteront importantes. Les deux parties seront, qui resteront et dont on parlera dans le livre de Daniel, comme dans l'histoire d'ailleurs, c'est la Syrie, qui va être appelée le roi du Nord, le royaume du Nord, mais plutôt le roi du Nord, et l'Égypte qui faisait partie de l'empire d'Alexandre, l'Égypte qui sera appelée le roi du Midi. L'Égypte avait donc été conquise, n'est-ce pas, par Alexandre. Et les quatre généraux vont donner donc quatre parties, n'est-ce pas, dont deux, comme je vous l'ai dit, vont rester, avec des dynasties. Les généraux qui vont succéder à Alexandre vont fonder chacun sa dynastie, la dynastie des Séleucides pour la Syrie et la dynastie des Ptolémées pour l'Égypte, étant donné que Séleucus et Ptolémée étaient les deux généraux d'Alexandre qui vont régner sur la Syrie d'une part et l'Égypte d'autre part. Alexandre avait 26 ans lorsqu'il prit le royaume des Mèdes et des Perses, et il s'était fait appeler le maître des mers et de la terre. C'est sans doute pour ça qu'il n'est pas resté bien longtemps en place. Le maître des mers et de la terre. Le quatrième royaume, fort comme du fer, et qui ensuite sera divisé. Eh bien, ce royaume, ce quatrième royaume, il a deux périodes. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ce royaume a deux périodes. Nous le voyons bien, n'est-ce pas, dans ce que je viens de relire, les versets 40 à 43. Il a deux périodes. Un temps de force. Un temps de force, n'est-ce pas? Quatrième royaume, fort comme du fer. Il brisera, rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Alors, il a un temps de force. Et deuxièmement, un temps d'alternance de la force et de la faiblesse. Et comme tu as vu les pieds, les orteils en partie, etc., il y aura quelque chose de la force du fer et de la faiblesse de l'argile. Un temps, par conséquent, d'alternance, de faiblesse avec la force, et une division en 10 parties est annoncée. Les doigts de pied, il n'en est parlé, n'est-ce pas, qu'après. Une division en 10 parties est annoncée, et nous retrouverons cette division sous une autre forme, les 10 cornes de la 4e bête du chapitre 7, quand nous y serons, je vous le rappellerai. La faiblesse viendra d'alliances humaines, c'est-à-dire d'alliances calculées par l'homme et qui ne seront pas du tout du vœu de Dieu. À la force première du 4e royaume viendra s'ajouter dans la suite des temps des éléments qui y seront réunis par volonté d'homme, nous verrons cela. Ce 4e royaume, ai-je besoin de vous le désigner, c'est l'Empire romain. Mais nous aurons l'occasion d'en parler, je ne vous en dis rien de particulier maintenant. C'est l'Empire romain, n'est-ce pas, qui a commencé sa carrière en brisant tout, en rompant tout. Il était fort, il était invincible. Union et désunion, n'est-ce pas? Alors, il y aura des unions, des alliances humaines, des alliances voulues, conçues par les hommes, et qui ne seront pas du tout dans la volonté de Dieu, pour lesquelles, unions pour lesquelles on n'aura pas consulté Dieu, et que l'on fera même contre la volonté de Dieu, si bien que l'on peut dire déjà qu'il y aura coexistence de deux pouvoirs, le pouvoir de l'État et le pouvoir religieux, et le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ces deux pouvoirs vont, n'est-ce pas, s'efforcer de faire un seul empire. On s'efforcera très longtemps encore, n'est-ce pas, de faire survivre l'Empire romain, et même, n'est-ce pas, de le remettre en selle, Charles Quint, par exemple, n'est-ce pas. Et puis, c'est toujours pareil, n'est-ce pas, on voudra s'appuyer sur Rome, on voudra qu'il y ait le pouvoir religieux, et le pouvoir spirituel, enfin, tout au moins appelé comme ça, n'est-ce pas, le pouvoir religieux, et le pouvoir de l'État, et ça, Dieu n'a jamais voulu pareille chose, ce sont des alliances conçues par l'homme, des alliances qui ne peuvent donner qu'un mélange de force et de faiblesse. Après le temps de ces 10 fractions, donc il y aura un fractionnement en 10 parties, que je vous montrerai plus tard, après le temps de ces 10 fractions, ce sera l'effondrement de la puissance de ces nations. Mais alors, chose extraordinaire, la statue subsiste jusqu'au moment où la petite pierre vient en frapper les pieds, et où, n'est-ce pas, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or se volatilisent. Mais vous me direz, l'empire de Nebuchadnezzar, bon ben, il est du passé, puisque après il a été remplacé par celui des Mèdes et des Perses. Mais celui des Mèdes et des Perses est entré dans le passé aussi, il a été remplacé par l'empire d'Alexandre et des Grecs. Et puis après celui des Grecs Il est entré dans le passé, il a été remplacé par l'Empire romain. Et l'Empire romain lui-même a donné naissance, n'est-ce pas, à la situation que nous connaissons maintenant, à la fin des temps. Mais tout ça, c'est fini, c'est passé dans l'histoire. Eh bien non, c'est une vue humaine, mais ce n'est pas passé. Et nous ne comprenons rien à la prophétie si nous croyons que le passé, n'est-ce pas, n'a plus d'importance pour Dieu, et qu'il est rayé parce que ce n'est plus le temps actuel, n'est-ce pas? Le passé a au contraire une puissance d'intervention, de continuité en certaines choses, et d'influence, je pourrais dire, sur le présent et même sur l'avenir. Et bien entendu, je pourrais vous dire que si aujourd'hui, par exemple, la Terre est dans le malheur, c'est bien à cause d'un événement passé, c'est à cause de la chute. Eh bien, l'événement passé, eh bien, il a des conséquences qui demeurent, qui restent. Et le passé a non seulement des conséquences qui demeurent, qui restent, mais il imprime des marques sur le présent. Et sur, il imprime ses marques sur l'avenir et il subit. Si bien que c'est tout ça qui va être volatilisé. Tout va être volatilisé. Je vous montrerai en étudiant la suite du livre de Daniel, n'est-ce pas, que le prophète Daniel nous fait bien voir cette survivance des marques, des influences, des empires passés sur le dernier empire, et par conséquent sur le temps présent. Si on n'élargit pas son esprit, ses vues, pour comprendre ça, on ne peut pas bien comprendre le prophète Daniel. Alors on comprend, n'est-ce pas, superficiellement. Mais si on veut pénétrer dans la pensée du prophète, n'est-ce pas, et par conséquent dans la pensée que Dieu entend nous révéler, eh bien, il faut savoir cela. Nous verrons la suite demain.